Nous, on est prêt à commencer parce que, en fait, il y a des gens qui ont du travail à faire encore. Alors, moi, je suis Serge Melançon, je suis médecin généticien. Je travaille avec des patients et je ne fais plus de recherche active maintenant, sauf de la recherche clinique. Et je suis basé à l'hôpital de Montréal pour enfants, ici à Montréal, et j'ai des invités. Je vais demander à chacun, chacune, pour commencer, de se présenter. Notre invité d'honneur est Dr Kremp, qui vient de France. Alors, je vous la donne.
Merci beaucoup. Donc, je suis très honorée d'être ici et de participer à ce café scientifique. Donc, effectivement, je m'appelle Odile Kremp, je suis pédiatre de formation. J'ai fait très longtemps de la clinique jusqu'il y a 5 ou 6 ans. Et comme pédiatre, je me suis bien entendu toujours intéressée aux maladies rares. J'ai fait ma thèse sur l'hémophilie et j'avais fait un travail de recherche France-Québec avec une bourse de la Commission franco-québécoise sur la comparaison du diagnostic prénatal en France, enfin, dans le nord de la France et au Québec. Et c'était déjà il y a quelques temps, mais ça a été aussi le sujet de ma thèse de doctorat de sciences en santé publique. Et plus récemment, je suis tombée vraiment en plein dans les maladies rares, d'abord à l'Institut de veille sanitaire à Paris, où j'ai travaillé sur l'épidémiologie des maladies rares, puis au ministère français de la Santé, où j'ai participé à la fin du premier plan maladies rares en France et à l'élaboration et la rédaction du deuxième plan. Et le 1er janvier 2012, j'ai pris la direction d'Orphanet, où j'ai succédé au docteur Ségolène Aimé. Et Orphanet, c'est une grande base de données online, accessible gratuitement, d'informations sur les maladies rares qui s'adressent à la fois aux patients, aux professionnels de santé, aux chercheurs et aux industriels. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Montréal il y a quelques jours, puisque nous venons de lancer Orphanet Québec et Orphanet Canada.
Bonjour, je m'appelle Jacques Michaud, je suis médecin généticien et chercheur au CHU Sainte-Justine, à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. En clinique, mes activités cliniques sont consacrées complètement aux enfants qui ont des anomalies du développement, retard de développement, déficience intellectuelle, des problèmes neurologiques en lien avec des retards de développement. Et en fait, ces enfants ont généralement des maladies génétiques rares, pas toujours, mais en grande partie des maladies génétiques rares. Et en recherche, j'essaie justement d'identifier ces maladies, le gène associé à ces désordres, à ces conditions, pour essayer de mieux comprendre ce que font ces gènes-là, pour penser, la route est longue, mais penser à des traitements spécifiques pour chacune de ces conditions. Alors, je participe aussi à un consortium canadien qui est important, qui s'appelle FORGE, pour Finding Rare Disease Genes in Canada. Donc, c'est un consortium qui regroupe 21 centres hospitaliers, des dizaines et des dizaines de cliniciens et 50 chercheurs. Et l'idée de ce consortium, c'est de travailler ensemble pour accélérer l'identification des gènes en cause dans les maladies rares. Donc, les maladies orphelines. Donc, l'idée, c'est s'il y a un médecin qui est à Vancouver, un enfant ou un adulte avec une condition rare, mais puis qu'il y a un autre médecin, par exemple, à Toronto, qui a un enfant avec la même condition, mais l'idée, c'est de les encourager à travailler ensemble pour élaborer un projet qui viserait à identifier le gène en cause. Puis ça fonctionne. On a identifié un nouveau gène, la cause, on a identifié un nouveau gène associé à des maladies rares par semaine depuis un an et demi. Donc, ça, c'est vraiment un travail collaboratif qui a vraiment permis d'accélérer l'identification des gènes dans les maladies rares.
Madame Ouellet, docteur Ouellet.
Bonjour, je suis Gaëlle Ouellet. J'ai un passé en recherche en génétique, plus dans les maladies complexes. Ensuite, je suis devenue conseillère en génétique. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est une profession de la santé au Québec, on est très peu. Et puis maintenant, je suis directrice du Regroupement québécois des maladies orphelines. C'est un regroupement d'une vingtaine d'associations de maladies rares et de personnes qui ont des maladies rares ou de parents d'enfants qui ont des maladies rares mais qui n'ont pas d'association, orphelins d'association, comme on dit. Et notre mission, c'est surtout de donner de l'information via notre portail info maladies rares, donner de l'information sur les maladies rares. Qui nous contactent, les personnes qui ont toutes sortes d'informations, dont les projets de recherche. Et une de nos missions, nos objectifs de notre mission, c'est de promouvoir la recherche sur les maladies rares.
Monsieur Philippe.
Oui, bonjour, je suis Jean Fénix, je suis administrateur de l'Association canadienne des ataxies familiales, mieux connue sous le nom de l'Association canadienne d'ataxie de Friedreich. Claude Saint-Jean est le fondateur de l'association. On va célébrer le 40e anniversaire de notre association cette année. On regroupe des gens qui vivent avec des maladies génétiques, héréditaires, neurodégénératives, dont la plus connue est l'ataxie de Friedreich. On est étendu à travers le Canada, de Nouvelle-Écosse à Colombie-Britannique. On a des gens qui nous rejoignent. On est très connu mondialement aussi. On a aidé à fonder des associations dans différents pays, où, surtout où est présente l'ataxie de Friedreich. Notamment, on a aidé à la création de l'association française d'ataxie de Friedreich et des associations en Afrique du Nord. Moi, je peux témoigner de la réalité de vivre avec l'ataxie de Friedreich. Ma femme est atteinte d'ataxie de Friedreich, puis dans sa famille, il était 4 sur 5 à vivre avec la maladie. Puis là, il y avait des cousins et cousines atteints. Puis j'ai découvert aussi récemment des cousins éloignés dans ma famille qui ont aussi l'ataxie de Friedreich. On estime, nous autres, au Québec, qu'il y a probablement 2% de la population qui porte ce gène qui est récessif de l'ataxie de Friedreich. En plus, il existe 40 à 60 formes d'ataxie qui sont maintenant identifiées. On dit souvent que les ataxies sont les maladies rares, orphelines, les plus fréquentes. Je vous remercie beaucoup.
Monsieur Phoenix, je vais vous demander la question. Pour avoir un prix, vous devez répondre. Pour vous et pour votre association, c'est quoi l'importance de la recherche?
L'importance de la recherche, nous autres, c'est la source d'espoir. La recherche est fondamentale. La recherche clinique, il y a la recherche fondamentale aussi. Mais on est rendu, la physiopathologie de la maladie de l'ataxie de Friedreich, entre autres. Pourquoi on se concentre surtout sur l'ataxie de Friedreich? C'est parce que c'est une maladie monogénique. On comprend très bien le mécanisme qui est en cause, qui cause la maladie. Un déficit au niveau de la production d'une protéine qui joue un rôle dans les mitochondries, puis la production d'énergie, il y a une accumulation de fer. L'accumulation de fer tue les cellules. C'est une maladie qui est très présente dans la population, qui ont des ancêtres qui viennent d'Europe de l'Ouest et d'Afrique du Nord aussi, là, parce qu'il y a eu une partie de la population d'Afrique du Nord qui a habité en Europe de l'Ouest. Ça, c'est l'histoire. Puis, pour nous, la recherche est fondamentale. C'est la source d'espoir. Nous autres, on vit d'espoir, on espère que l'ataxie de Friedreich soit une maladie aussi facile à traiter que le diabète pour les gens qui vivent avec l'ataxie de Friedreich. Puis on a des bonnes raisons de croire que ça va se faire bientôt. On va être capable de guérir l'ataxie de Friedreich. Ou les gens vont vivre mieux avec l'ataxie de Friedreich.
Je vais nuancer la question pour Dr. Ouellet. Puisque vous regroupez des associations de patients, de malades, quel est votre rôle principal et comment vous allez gérer et assurer que les chercheurs et les patients arrivent à la solution qui est proposée par M. Phoenix?
Bien, nous, c'est vraiment donnant le plus d'informations possibles sur les projets de recherche existants ou les projets de recherche potentiels. Et puis, c'est de mettre en contact des chercheurs avec des patients. On dit tout le temps qu'il y a des chercheurs qui cherchent des patients, puis il y a des patients qui cherchent des chercheurs. Alors, c'est ce qu'on fait. On le fait individuellement quand les gens nous contactent au portail Info Maladies Rares. Ça peut être pour différentes raisons. Il y en a qui nous contactent exprès pour savoir où en est la recherche et trouver des projets de recherche dans lesquels ils peuvent participer ou des essais cliniques aussi. Mais sinon, quand on donne une information sur une maladie, quelle qu'elle soit, on fait toujours des fiches où on inclut toute l'information sur les projets de recherche en cours, les experts mondiaux, les essais cliniques en cours, etc., les médicaments orphelins qui existent. Donc, ça, c'est une façon de donner de l'information. L'autre façon, c'est qu'on met vraiment physiquement en contact des malades avec des chercheurs. Donc, on a eu quelques exemples. En fait, même avec une compagnie pharmaceutique, pour une maladie qui est plus fréquente qu'on le pensait au Québec, la maladie de Morquio. Et comme on savait qu'il y avait une étude multicentrique internationale du premier médicament expérimental pour cette maladie, on a contacté la compagnie, il fait de la représentation pour dire au Québec, il y en a beaucoup, est-ce qu'on pourrait avoir un centre d'études ici? Et d'ailleurs, ça s'est fait. Le médicament est en test maintenant, déjà à l'hôpital de Montréal pour enfants et à Sherbrooke. Alors, c'était le contact. En fait, mettre ensemble trois parties, une compagnie pharmaceutique, les chercheurs, les patients. Un autre exemple, c'est, en fait, on aide des associations pour ce qui est de des orientations de recherche. On les met en contact. Même la CAF, on a mis l'association en contact avec un chercheur à Québec qui travaille sur des traitements. Parce qu'ils n'avaient pas encore commencé à financer ce type de recherche. L'autre chose qu'on fait, c'est promouvoir beaucoup le travail de la Fondation GO de Pierre Lavoie, qui finance des maladies héréditaires orphelines. Donc, c'est en parler. On a réussi d'ailleurs à informer un chercheur qui pouvait faire une demande ou même plusieurs, mais il y en a un qui l'a eu, la subvention, encore sur la maladie de Morquio, les aspects osseux de la maladie de Morquio, un chercheur à l'hôpital de Montréal pour enfants. Et aussi, on essaie de faire de l'information dans la population, plus largement, par notre page Facebook, on donne des nouvelles des dernières découvertes, des maladies spécifiques ou les dernières tendances là, dans les thérapies. Puis, une dernière chose que je veux dire, c'est nous, on promouvoit pas seulement la recherche biomédicale, parce que oui, c'est vraiment ce que les gens veulent, l'espoir d'un traitement pour leur maladie, mais nous, on trouve important qu'ils puissent améliorer leur qualité de vie en attendant qu'il y ait un traitement, parce que des fois, ce n'est pas pour demain, ces traitements-là. Pendant ce temps-là, ils ont des difficultés quotidiennes, donc on promouvoit aussi les études psychosociales, les études de qualité de vie, les études en réadaptation, en physiothérapie, en ergothérapie, tout ce qui peut avoir un impact dans leur vie quotidienne en attendant qu'il y ait peut-être un traitement qui peut guérir.
Merci. Docteur Kremt, depuis que Orphanet a ouvert une cabine sur son vaisseau pour le Canada et le Québec, comment pensez-vous que cette association nouvelle va promouvoir la recherche et peut-être la coopération entre la France et le Canada?
Actuellement, donc, Orphanet recueille des données dans tous les pays d'Europe et d'un certain nombre d'autres pays, donc dans près de 40 pays, d'abord sur les maladies et aussi sur tout ce qu'on appelle les ressources expertes, c'est-à-dire les cliniciens, les consultations spécialisées, les laboratoires, les tests diagnostiques, à quel endroit on peut les faire, les associations de malades, les registres de bases de données. On a ainsi dans notre base d'informations sur plus de 15 000 professionnels de santé en Europe essentiellement, sur 4000 essais cliniques, surtout en Europe, sur 600 associations de patients, 500 ou 600 registres. Et je pense que le fait de traverser l'Atlantique comme ça, avec le début de collecte d'informations qui a été faite à l'échelon du Québec et plus largement à l'échelon du Canada, va permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe. Actuellement, ce qu'on essaie de faire dans notre base, c'est pour tous les essais cliniques en cours ou tous les essais thérapeutiques, de pouvoir indiquer le type d'essai, qui en est porteur, de savoir dans quel pays, combien de pays ça se passe, si ces essais sont encore en cours de recrutement, donc ça permet aux malades ou aux professionnels de s'inscrire dans ces essais, ou savoir si les essais sont terminés, quels sont leurs résultats. Et je pense que l'extension à l'ensemble du Canada va aussi être beaucoup plus intéressante pour les familles et pour les professionnels de santé, savoir ce qui se passe et voir comment on peut contribuer soi-même ou par un de ces malades à un essai ou avoir les résultats de ces essais quand ils sont disponibles. Et on a donc commencé ça à l'échelle de l'Europe, donc dans tous les 27 États membres de l'Union européenne et puis pas mal de pays autour. On a aussi maintenant des données sur l'Australie. On va bientôt avoir les données au Japon. Les Chinois nous ont demandé aussi à participer. En Amérique du Sud, il y a déjà des données sur le Brésil. L'Argentine et le Chili vont arriver. Et on est en train de commencer une collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé pour avoir aussi en base tous les essais aux États-Unis. Donc, avec l'apport du Canada, où il y a beaucoup de recherches sur les maladies rares, comme j'ai pu le voir au cours de ces deux journées, je pense que ça donnera un panel d'informations pour tout le monde, à la fois les malades et les professionnels. Et ce qui est important, c'est que toute cette information est accessible en ligne gratuitement, 24 heures sur 24, et qu'on a une grosse équipe à Paris qui, avec la collaboration de toutes les équipes dans les pays, met la base à jour aussi souvent que nécessaire.
Merci. Docteur Michaud, vous avez réussi très bien à séquencer un grand nombre de gènes de maladies rares qui sont présentes ici au Canada. C'est une étape. Il y en aura d'autres. Quelles sont-elles?
Alors, c'est vrai que tu nous parles des technologies de décryptage du génome, des gènes, sont beaucoup améliorées. Puis on peut effectivement maintenant séquencer, c'est-à-dire décrypter le code génétique de tout un génome d'un seul individu rapidement, en quelques jours, quelques heures, pour un montant, pour une somme qui est raisonnable. Donc, l'idée d'identifier les causes, le défi qui était initialement d'identifier les gènes en cause dans les maladies rares va devenir quelque chose qui va être plus facile à réaliser. C'est-à-dire, identifier les gènes, ça va être une entreprise qui va être de plus en plus facile. Et pour moi, le défi après ça, c'est vraiment de penser au terme de traitement, parce que c'est sûr qu'identifier le gène, c'est important, ça a des impacts directs en termes de diagnostic. Hein. Une fois qu'on a un diagnostic, on arrête de chercher, on peut focaliser notre attention sur la condition qui est identifiée. Ça a un impact sur le conseil génétique, ça a un impact sur la prise en charge, mais ultimement, on veut améliorer le sort des enfants, des adultes qui sont atteints de ces maladies orphelines. Alors, c'est ça le défi, c'est sûr que l'identification du gène est l'étape incontournable dans la majorité des cas pour offrir un traitement spécifique. C'est en identifiant un gène qu'on peut arriver à penser à une thérapie qui est spécifique et adaptée aux besoins de l'enfant. Alors, ça, c'est sûr que c'est plus facile maintenant d'identifier les gènes que de trouver un traitement, mais les choses changent. Il y a des technologies qui sont maintenant plus pointues, qui me permettent effectivement de mieux comprendre plus rapidement le rôle d'un gène, puis de commencer à penser en termes de stratégie pour pallier au déficit qui est causé par la mutation. Donc, il y a toutes sortes d'avancées technologiques. On a maintenant des modèles animaux, des souris, des poissons, qui sont vraiment extrêmement utiles pour comprendre la fonction du gène, mais aussi pour cribler des banques de petits composés, de médicaments potentiels, pour identifier le médicament qui pourrait exercer un effet. Donc, la route est encore longue. Il y a des gènes qui sont plus faciles à traiter, des gènes pour lesquels le mécanisme est clair d'emblée, puis il y a clairement d'emblée une stratégie qui peut être évoquée pour développer un traitement. Mais il y a d'autres maladies où c'est plus long, parce qu'on ne connaît pas la fonction du gène, on ne sait pas trop ce que le gène fait. Donc, il faut d'abord comprendre ce que le gène fait, puis même si on comprend ce que le gène fait, ce n'est pas évident non plus qu'on aura des outils pour aller pallier au déficit. Donc, il y a des histoires qui sont plus faciles, des histoires qui sont plus compliquées, mais globalement, on espère que les choses vont s'accélérer, que ça va devenir de plus en plus facile de trouver des traitements. Puis, il y a des exemples réels de ça, là. Mais ça va être ça le défi.
Je vais suggérer aux gens qui sont présents dans l'auditoire de se déjeuner et de venir poser des questions, si vous le voulez. Entre-temps, je voudrais vous rappeler que ça peut être des questions qui s'adressent à n'importe lequel d'entre nous sur un sujet qui se rapproche des maladies rares et de la recherche. Et j'aimerais vous prier de ne pas poser de questions pour une maladie personnelle ou pour quelqu'un de votre famille, pour ne pas avoir d'exposition à travers le monde, puisqu'on est on est ouvert. C'est donc une discussion qui est ouverte et qui peut être accessible par à peu près tout le monde. Oui, est-ce qu'on pourrait demander s'il y en a déjà? Parce que certains de nos collègues ont un temps limité.
Moi, j'ai une question, parce que c'est un café scientifique. Oui, le café.
Bon, alors, on va aller se puncher, puis on revient, puis les gens sont invités à venir nous poser des questions.
Peut-être, j'ai quand même oublié quelque chose tout à l'heure. On a aussi une lettre électronique en français et en anglais qui paraît tous les 15 jours, qui s'appelle Orphan News. À Paris, on dit que c'est une newsletter, mais à Montréal, je n'ose pas dire ça parce que je ne sais pas comment on dit newsletter au Québec, mais en tous les cas, chez nous, elle s'appelle une newsletter.
Une lettre d'information.
Bon, une lettre d'information électronique. Et donc, pour laquelle nous avons une veille scientifique extrêmement importante avec des gens qui s'en occupent à plein temps à Paris, qui sont des jeunes femmes extrêmement qualifiées. On surveille toute la littérature internationale et on essaie de mettre à disposition, en temps relativement réel, toutes les nouvelles publications et avec les informations sur les nouvelles thérapeutiques, sur les nouveaux gènes qui sont trouvés, sur la politique de santé. Alors pour l'instant, c'est surtout en Europe et en France, mais on pourra aussi inclure bientôt les informations sur le Canada. Je sais qu'il y a eu récemment une décision importante au niveau du gouvernement fédéral pour le remboursement des médicaments. Et donc, tout ça, vous pouvez vous abonner en allant sur le site d'Orphanet à cette lettre électronique et vous êtes au courant de tout ce qui sort. On parle aussi des appels à projets, des projets de recherche et on essaie de donner l'information la plus large possible.
Très bien. Alors, on prend une petite pause. Pause santé.
Show that the rest of Canadian provinces by having its own office.
Je vous rappelle à l'ordre, la récréation est finie. Si vous voulez reprendre vos cahiers, vos crayons, on va faire la dictée maintenant. Jacques en a profité pour disparaître. Alors, Dr. Ouellet et Dr. Crème veulent absolument avoir des questions. Alors, sans ça, elles ne vont pas pouvoir rentrer à la maison heureuse ce soir. Mais voilà. Hélène.
Oui, je ne voudrais pas vous décevoir. Je suis Hélène Nandurand de PCU Canada, donc je représente la Phénylcétonurie. La question qui me vient à l'esprit, surtout qu'il y a plusieurs personnes de différents milieux, c'est quelle est votre opinion sur les ressources qu'on a au niveau de la santé publique par rapport aux maladies rares? On parle de recherche, on parle de collaboration. À une époque où, évidemment, les cordons sont serrés partout, quelles sont les possibilités pour des maladies rares d'avoir une oreille, d'avoir une participation au niveau de la santé publique, des budgets, de la recherche, etc.?
Je crois que c'est une très bonne question. Je vais demander tout d'abord à Dr. Crème d'y répondre parce qu'en Europe, particulièrement en France, ils sont très bien organisés. Donc, elle va pouvoir vous donner une image, un survol de ce volet-là. Et ensuite, je demanderai à Dr. Ouellet, parce qu'elle connaît très bien la situation au Québec et au Canada, de se comparer à ce que nos cousins français ont à leur disposition.
Merci. Donc, en France, effectivement, il y a une organisation autour des maladies rares qui a commencé officiellement avec le premier plan maladies rares qui a été en 2005, mais qui en fait avait commencé dans les années 1995-96 au ministère de la Santé par une mobilisation autour des médicaments pour les maladies rares. Il y avait déjà une réflexion qui avait commencé avec les médecins, les chercheurs, et aussi avec un gros soutien des associations de malades, notamment l'Association française de lutte contre les myopathies. Et donc cette réflexion s'est amplifiée. Et il y a plusieurs choses qui se sont mises en route. Il y a eu la création d'Orphanet en 1997 avec déjà l'idée d'apporter au plus près possible des gens l'information sur ce qui existait. Il y a eu à Paris la création de Eurordis, qui est la Fédération européenne des associations de malades, qui maintenant regroupe plus de 500 associations en Europe et à travers le monde. Il y a eu aussi la création de la plateforme maladies rares, qui est à Paris, dans un hôpital, et où dans le même bâtiment, il y a Orphanet, il y a l'Alliance Maladies Rares, qui est donc la Fédération française des associations de patients qui regroupe 200 associations, il y a Eurordis, qui en regroupe 500 à travers l'Europe et le monde, il y a des locaux de l'Association française de lutte contre les myopathies, il y a le numéro vert, en France ça s'appelle un numéro vert, ici je ne sais pas s'il est bleu, enfin une hotline pour répondre au téléphone aux gens qui veulent poser des questions parce qu'ils n'ont pas forcément un accès à Internet. Il y a la Fondation Maladies Rares et puis il y a Orphanet. Donc on est tous au même endroit, ce qui permet d'échanger plus facilement. Ensuite, sur le plan plus politique, donc le premier plan Maladies Rares qui s'est établi de 2005 à 2008 visait à améliorer les soins pour les malades, d'abord dans le diagnostic et puis dans la prise en charge. Et donc il y a eu un gros investissement du gouvernement français, il y a eu des centres de référence pour les maladies rares qui ont été créés, il y a eu des appels à projets. L'idée que ces centres soient des centres experts, parce que les malades sont rares et l'expertise aussi est rare, donc il faut la concentrer, et que ces centres experts aient un rôle moteur pour les soins, pour la recherche, pour la production de recommandations de prise en charge. Et donc il y a 130 centres qui ont été labellisés en France entre 2004 et 2007. Et autour d'eux, ils ont créé un réseau de centres qu'on appelle de compétences en France. Il y a 500 hôpitaux, 500 services hospitaliers qui participent. Donc il y a eu un maillage du territoire français. Alors donc il y a des centres de référence pour les anomalies du développement, il y a des centres pour les maladies rénales rares, pour les maladies cardiaques rares, pour les troubles du rythme cardiaque, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'il y en a 130, mais ça a permis de fédérer les énergies dans le domaine du soin, de la recherche. Ça a aussi facilité le passage quelquefois des maladies rares de l'enfant à celles de l'adulte, parce que quand même la prise en charge s'améliore. Il y a des maladies rares pour lesquelles les enfants maintenant deviennent adultes et c'est important de coordonner. Ça a aussi beaucoup stimulé la recherche et la production de recommandations. Il y a eu pas mal d'argent du gouvernement pour la recherche, et aussi des argents, des fonds privés de l'Association française contre l'homéopathie. Il y a eu beaucoup de projets de recherche qui ont été soutenus. Des laboratoires de génétique qui ont été soutenus de manière importante aussi pendant le premier plan. Et donc, globalement, l'évaluation de ce plan a été assez favorable. Ce qui me pêchait un peu, c'était le recueil épidémiologique et puis tout l'aspect de coordination médico-sociale, parce que la France est organisée différemment du Québec, et ce n'est pas toujours facile de coordonner les intervenants. Et donc, dans le deuxième plan, qui a commencé donc en 2011, c'est le plan 2011-2014, bien sûr, il y a toujours cette volonté d'organiser mieux les soins avec des choses qui sont très transparentes pour les malades et les non-spécialistes. Pour telle maladie ou pour tel type de maladie, ou si on a un doute sur une maladie rare, où est-ce qu'on peut s'adresser? Donc ça s'est déjà pas mal structuré là, pendant le premier plan, mais on va faire quelque chose de plus lisible encore, c'est la volonté du ministère français de la Santé. De ne pas laisser un malade sans centre ou un médecin sans point d'appel, sans savoir à qui il peut recourir. Toutes ces informations-là, d'ailleurs, sont disponibles sur Orphanet si vous les cherchez pour la France. Et puis, il y a aussi la volonté de coordonner mieux la prise en charge sociale pour aider les familles, quelquefois. Donc, tout ce qui est prise en compte du handicap, on a un gros travail avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est en France l'agence qui s'occupe du handicap. Et aussi d'aider les familles qui ont des soucis avec des malades très lourds pour essayer de trouver des solutions de répit pour que les familles puissent souffler un peu tout en ayant une prise en charge de qualité des malades qui continuent. Bon, il y a plein d'autres aspects, mais je pourrais parler 2 heures, donc je rends le micro.
Oui, on va demander à Gail de parler 2 heures. Il est habitué, d'ailleurs.
On dit quand on se compare, on se console. Malheureusement, pas dans ce cas-ci. Le Canada est l'un des pays industrialisés qui est le plus en retard par rapport aux maladies rares. Nous n'avons pas encore même une définition officielle nulle part d'une maladie rare et pas vraiment de politique ou de programme, mais je veux pas être négative totalement, je ne le suis plus parce que honnêtement, dans les dernières années, il y a eu des avancées, ce qui est encourageant. Alors, au niveau de la recherche, les instituts de recherche Santé Canada ont fait leurs premières offres de subventions uniquement pour les maladies rares. Ils ont donné leur première subvention à 8 projets, là, je crois, en février passé. Une bonne nouvelle qu'on a entendue hier de notre Pierre Lavoie national, pour ceux qui le connaissent, c'est que Génome Québec va co-financer avec Fondation Go, donc la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. En tout cas, c'est la promesse faite. Ensuite, pour la recherche, nous, lorsqu'on s'est créé au début de 2010, le ministre de la Santé a répondu à notre appel pour dire qu'il encouragerait la recherche des maladies rares. Puis il y a eu des petites avancées faites au niveau du ministère d'innovation, développement, en tout cas le nom, je ne m'en rappelle jamais. Mais ensuite, pour les autres aspects, parce que la dame, je pense qu'elle ne parlait pas seulement de la recherche, les autres aspects, bien, on attend aussi. C'est sûr que sans définition, sans reconnaissance, que les maladies rares sont une catégorie spécifique avec une problématique spécifique, on ne peut pas vraiment bâtir de programme là, au niveau de la santé publique là-dessus. Mais il y a eu, dans certains points, par exemple, 3 provinces qui ont avancé au niveau de l'accès aux médicaments orphelins. Il y a l'annonce la semaine passée de la ministre Santé fédérale sur un cadre réglementaire pour les incitatifs au développement des médicaments orphelins et des approbations plus rapides de médicaments qui viennent d'ailleurs, etc. Mais nous, et puis c'est toutes des actions qui ont été stimulées par une organisation de patients aussi, la Canadian Organization for Rare Disease, au niveau du Canada. Et au niveau du Québec, on a demandé, on l'appelait un plan national québécois, mais on a eu une réponse positive qu'on ferait une stratégie québécoise pour les maladies rares. Puis là, ben, il y a un changement de gouvernement, fait qu'on va voir ce qui arrive. Mais c'était sur la table avec un comité qui allait se créer là, cet automne. Et puis il y a eu des avancées sur des choses qu'on a demandées il y a 2 ans. Notre participation au Québec à Orphanet, puis aussi les autres provinces du Canada qui participent. Il y a eu des avancées au niveau, l'accès aux médicaments orphelins. On en parle tout le temps, là, il est supposé d'avoir un cadre d'évaluation pour les médicaments orphelins. Il y a eu des avancées au niveau de la prévention, plus des comités sur la question du dépistage des nouveaux-nés, c'est parce que c'est toutes des maladies métaboliques rares qu'on dépiste chez nos nouveaux-nés, et puis des dépistages populationnels dans certaines régions du Québec.
Je pense que, Dr Michaud, vous pourriez nous parler également des avancées récentes. Il y a eu de gros efforts faits par nos gouvernements pour supporter, établir une base financière pour la recherche sur les maladies rares, surtout les génétiques.
J'ai un peu mitigé parce qu'effectivement, je ne sais pas à quoi vous faites référence en particulier, mais c'est sûr que les IRSC, les instituts de recherche, ont fait deux choses majeures au cours des dernières années. Ils ont dégagé, ils ont mis de côté pas mal d'argent pour cibler la recherche sur les maladies rares dans le contexte de compétition. Et puis, ils ont aussi subventionné le projet Forge dont je vous parlais, là, qui était un catalyseur pour la recherche en génétique des maladies rares. Puis, je pense que le président, le directeur de l'Institut de génétique des IRSC était là ce matin, Dr Lasco, et Dr Lasco garde son œil sur la balle des maladies rares. Donc, c'est une cause qui lui tient à cœur. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une révolution, au sein des IRSC, des instituts de recherche en santé du Canada. Maintenant, ma seule ambivalence, c'est que le budget total des IRSC devrait être plus élevé. Il a tendance à stagner alors que le nombre de chercheurs augmente, que le coût de la recherche augmente, les technologies sont de plus en plus performantes, mais coûtent de plus en plus cher aussi, et les fonds n'augmentent pas en conséquence. Et donc, les IRSC font beaucoup pour les maladies rares et d'autres problèmes de santé, évidemment, avec les moyens qu'ils ont. Mais on pourrait faire plus si on avait encore plus d'argent, honnêtement. Là. Il y a des considérations économiques, mais il y a aussi des choix de société.
Monsieur Phoenix, est-ce que vous auriez des commentaires?
Étant une association qui a peu bénéficié des fonds gouvernementaux, c'est tous des fonds qui ont été élevés auprès des familles, des gens, des sympathisants, ça veut dire en valeur d'aujourd'hui 15 millions à 40 ans qui ont été versés à la recherche sur les ataxies. On a été important à la découverte de différentes formes d'ataxie, dont l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, c'est plus souvent mentionné. C'est nous autres qui avons financé la découverte du gène, l'ataxie de Beauce, l'ataxie de Portneuf, l'ataxie récessive tardive, nombreuses formes d'ataxie, qui en restent toujours aussi à identifier, parce qu'on estime qu'il y a peut-être 75% des gens qui vivent avec une ataxie, on ne connaît pas la cause, le gène qui est en cause. Combien de temps encore on va être capable de continuer? Parce que là, les besoins sont au niveau du traitement, sont au niveau développer des thérapies pour ces gens-là, sans l'aide gouvernementale, sans un projet. La France, qu'est-ce qu'on entend de la France? C'est comme si on était sur une autre planète. Là, on comprend pas vraiment là, à quel niveau ils sont rendus. Là, on peut pas croire à ça. Puis il y avait des gens qui ont manifesté, même du domaine de la santé, qu'est-ce qu'ils voyaient sur Orphanet puis sur les sites européens, français notamment, c'était faux, là. Mais tellement qu'ils ont de la misère à croire que ça peut être si avancé en France notamment. On connaît que c'est un pays qui est avancé au niveau de la science médicale depuis toujours. Mais pour nous qui a aidé à créer des associations en France, en Belgique, en différents pays de... Je veux dire, on a vu le retard continuel du Canada, du Québec, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du financement de la recherche, l'aide à la compréhension des maladies, du support aux gens qui vivent avec des maladies extrêmement handicapantes. On salue le progrès qui se fait depuis quelques années, mais c'est une surprise. D'entendre tout ce qui se fait en France, là, puis surtout quand ils viennent nous parler, c'est comme des champions olympiques qui parlent à quelqu'un qui est un amateur, là. Merci beaucoup.
J'aime beaucoup l'image que vous avez donnée. On est, oui, sûrement, on est jaloux. Vous aviez une question?
Oui, bonjour, je suis Wilson Sanon, le président de l'association d'anémie falciforme du Québec, communément appelée en France la drépanocytose. Est-ce que l'appellation maladie rare change d'un pays à l'autre? Et quand est-ce qu'on peut parler de dire que cette maladie n'est plus une maladie rare?
La définition qui est communément utilisée en France et dans la plupart des autres pays européens, c'est une prévalence inférieure à moins de 1 sur 2000. Mais effectivement, s'agissant de, notamment de la drépanocytose, c'est une excellente question parce qu'en France, il y a, dans certaines régions françaises, il y a une prévalence qui fait que ce n'est plus une maladie rare, notamment en région parisienne et dans le sud de la France. Mais à l'échelle, par contre, du pays, ça reste... à peu près, je pense, 13 000 ou 15 000 malades identifiés maintenant, enfin, porteurs homozygotes. Mais c'est une maladie qui est dont le nombre de patients augmente. Mais ce que je voulais dire quand même, vous qui, parce que vous dites que vous êtes jaloux, mais d'abord, tout n'est pas parfait en France, parce que quand on... Justement, c'est pour ça qu'il y a eu besoin d'un deuxième plan et qu'on se demande s'il faudra en faire un troisième. Il y a de fortes demandes qui ne sont pas encore couvertes. Il y a encore des gens qui n'ont pas accès à l'information, qui ne savent pas forcément où la trouver. Il y a encore plein de médecins qui ne connaissent pas les maladies rares. Madame Violet, qui est la présidente de l'Alliance maladies rares, dit toujours qu'il faut instiller aux jeunes médecins et aux jeunes professionnels la pédagogie du doute. Et j'aime beaucoup quand elle dit ça, c'est savoir... Et si c'était une maladie rare, et même chez nous, ce n'est pas parfait. Par contre, je pense que la mobilisation telle que vous l'avez commencée ici porte ses fruits en Europe. Là, il y a une mobilisation très forte des associations. Et il y a eu, au niveau donc, de la Commission européenne, il y a eu d'abord une communication sur les maladies rares en 2008, puis une recommandation en 2009. Et cette recommandation, elle n'a pas force de loi à l'échelle de l'Europe, mais elle incite très fortement tous les États européens à mettre en place une stratégie ou un plan maladie rare avant 2013. Et ça a entraîné dans tous les pays une mobilisation, parce que même si les gouvernements ne sont pas obligés de le faire, le fait que le gouvernement européen, enfin la Commission européenne dise « il faut que vous fassiez quelque chose », les gens se réunissent partout, il y a différents... les associations de patients sont très, très fortes, il y a un fort soutien de Ordis, et puis des médecins, les chercheurs se sont emparés un peu partout, et ça bouge dans tous les pays d'Europe. Il y a plusieurs pays qui ont adopté déjà des stratégies ou des plans, et il y en a qui sont en train de faire des consultations. Enfin, ça ne s'est pas fait non plus en un jour. En France, ça a quand même pris entre la mobilisation officielle en 1997 et le premier plan, ça a pris presque 10 ans. Et donc, je crois que ça bouge, et c'est vous qui faites bouger. Et c'est sûr que les associations de malades, elles sont très, très porteuses et très fortes. Et en France, l'association française contre l'hémiopathie, l'Alliance, l'Eurordis, sont des éléments moteurs, même si, bien sûr, les professionnels se mobilisent autour.
Oui, nous avons d'ailleurs, et nous voyons encore ici au Canada, au Québec, que les demandes, les pressions qui vont être faites par des parents, par des malades, ont beaucoup plus d'effets immédiats et à long terme que celles qui peuvent être faites par les médecins, les chercheurs, les scientifiques, dont la crédibilité est généralement remise en question, puisqu'ils ont un intérêt personnel à développer dans la direction de leur axe de recherche ou au profit de leur malade. Et je dis toujours aux parents de mes patients qui ont besoin de support, faites la démarche vous-même, vous allez avoir une crédibilité presque automatique. Alors que si c'est moi, on va remettre un petit peu en doute en disant, ben, c'est le docteur, et puis le docteur veut toujours faire mieux paraître que les autres, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On a une autre question? Non, on peut arranger ça, tiens.
Vous en avez un? Ah, merci. Ça fonctionne tout de suite, oui. C'est concernant tout le vous, mais le monde de la médecine, c'est pour savoir les donations. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je donne des donations pour les recherches. Je me suis dit, bien, c'est de l'argent quand même bien donné. Je ne pense pas que c'est un gros montant. Mais je me suis dit, ça va sûrement aider pour les recherches. Un jour, comme vous dites, ça prend le temps. Mais souvent, c'est vraiment un succès, et toujours un succès dans tout, mais souvent, très vite, parce que vous avez dit, des fois, ça prend une dizaine d'années, ça prend le monde, wow! Ils donnent tellement d'argent, ils pensent que ça va être plus vite. on, plus qu'on donne l'argent, plus la recherche va être faite plus vite, plus de monde, plus de recherche. Tu sais, tout ça. Mais le petit montant d'argent que je donne, je trouve que vraiment, ça vaut la peine, là, tu sais. Et en plus, ben, j'ai pris un cours d'émotion adaptation, le cours de correspondance, ça, cégep à distance, ça, cégep correspondance, cégep Rosemont, là, auditeur libre, là, émotion adaptation. Puis, là, une question qu'il posait, c'est que si quelqu'un fume, OK, puis ils veulent arrêter de fumer, pour arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me suis dit, bien, moi, je suis déjà donné donation, ça vaut une vingtaine d'années. Pour les encourager, moi, je leur dirais, ne donnerais pas 2 $ pour qu'ils arrêtent de fumer, personnellement, à la personne, à chaque fois qu'ils veulent arrêter de fumer. Je préfère donner ça à la recherche. Tu sais, le monde qui travaille dans la recherche, moi, je ne travaille pas dans la recherche, mais, tu sais, apprenant le cours. Mais la réponse était vraiment de donner 2 $ individuellement. Bon. S'ils veulent vraiment donner, je ne suis pas fâchée, là. Je préfère donner vraiment 2 $ ou les montants quelconques pour les recherches. Comme je vous ai dit, j'ai pris ce cours-là récemment. On est en l'année 2012, mais c'est en 2011. J'ai commencé, c'était en septembre, j'ai commencé en novembre. OK? Puis j'ai eu 113 % de moyenne, puis 4,5 unités correspondance, puis c'est auditeur libre. Fait que, j'ai trouvé que c'était bien intéressant, c'est psychologie, puis j'ai dit, tu sais, je veux dire, puis je faisais des donations bien avant.
Oui, vous avez
un livre
d'éducation
physique de l'année 2006, que j'ai pris seulement un livre dans l'année 2006 en plus. Fait que, tu sais, j'essaie de pouvoir m'améliorer. Je suis jeune préposée aux bénéficiaires dans les hôpitaux dans le temps, là, 1989, tu sais, le ministère d'Éducation, là, maison d'enseignement hospitalier, maison, puis aussi Hélène Cabillon, là. Puis j'ai eu quand même 88%. Fait que j'aime savoir plus de choses, c'est pour plus en connaître. Ça, c'est normal avec n'importe quoi.
Oui, je vous félicite, madame. Je vous remercie.
Le ministère de l'Éducation, crédit, tout ça, là.
Est-ce que vous aviez une question précise
à poser? Je trouve que c'est bien que tout le monde continue à vouloir donner le montant qu'il faut pour une recherche qui se fait bien puis qui se développe très bien, madame, qui est heureuse. La France, mais partout. Dans le monde, ici, c'est le Canada. Puis je trouve que vraiment, c'est un succès. Je suis allée voir bien des choses, puis je trouve que vraiment, j'ai jamais eu aucun doute. Puis je sais que c'est excellent, puis je vous encourage vraiment.
Je vous remercie.
Je trouve que j'encourage tout le monde pour vouloir les aider pour les donations, pour faire des recherches qui donnent beaucoup.
Merci, madame. Je vais juste commenter que donc c'est sûr qu'on a besoin globalement d'un financement public plus important, mais c'est vrai que les fondations aussi font souvent la différence, les fondations des hôpitaux, mais aussi les fondations privées. Et peut-être un élément qui est important, c'est ce qu'on appelle en anglais le seed money, c'est-à-dire l'argent qui va permettre d'amorcer un projet. Parce que quand vous vous présentez dans les grandes compétitions des agences nationales de subvention, les instituts de recherche, généralement, ils veulent que vous ayez déjà une bonne idée d'une hypothèse qui a déjà été validée. Vous voulez, pour être compétitif, parce que la compétition est tellement importante, et on s'attend à ce que votre projet soit quasiment fini pour obtenir l'argent. Là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive avec des résultats préliminaires. Et donc, des petits montants, parfois, peuvent permettre d'amorcer un projet qui peut débouler et devenir quelque chose d'important. Puis on a plein d'exemples de ça, de projets qui ont commencé avec un 10, 15, 20 000, puis après ça, ça a permis de se positionner pour aller chercher de l'argent de façon plus importante. Alors, c'est sûr qu'il faut savoir à qui on donne, puis il faut que le projet, les gens soient compétents, donc il ne faut pas que l'argent soit utilisé inutilement, mais c'est vrai que des petits montants peuvent faire une différence à long terme si c'est bien utilisé.
Merci. Oui, une autre question?
Bonjour, Caroline Dion de l'Association canadienne de l'hémiplégie alternante. Je voudrais relever le problème de répertorier des cas pour faire de la recherche. Il y a des maladies qui sont très, très rares et il y a une difficulté, ben, comme je ne vous apprends rien, il y a une difficulté à aller chercher des cas pour tester. Et il y a une difficulté aussi pour les associations d'aller chercher les cas pour autant pour la recherche que pour les associations, pour aller les inviter à se joindre aux associations. De là, ma question, pensez-vous qu'il y a moyen de modifier les possibilités pour pour aller chercher ces cas-là? Comme vous aviez parlé, madame, qu'en France, vous aviez des centres d'expertise. Est-ce que c'est, donc c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là si vous concentrez vos expertises dans un, deux ou trois, ou peu importe le nombre de centres que vous avez, selon les problématiques ou selon les cas que vous avez, c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là de pouvoir identifier les cas et à chaque fois que les médecins ou les gens ont des cas particuliers, ils peuvent les envoyer dans des endroits particuliers. Et aussi, les médecins peuvent se spécialiser et devenir des experts dans les maladies concernées. Donc, il y a plusieurs avantages au niveau des patients, au niveau des médecins également. Je trouve qu'au Canada, il y a peut-être possibilité, de concentrer les maladies avec que certains médecins prennent peut-être toutes les mêmes maladies, ou je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais pour que les médecins deviennent des experts dans certaines maladies rares, pour pas qu'il y ait un enfant là, dans certains hôpitaux, dans un hôpital, deux hôpitaux dans la même région, par exemple, on dit qu'il y a trois cas ou quatre cas ou cinq cas d'une maladie X, que les cas soient tous éparpillés partout. Pourquoi pas ne toutes rejoindre la même maladie, qui est une maladie rare, avec le même médecin ou dans la même place, par exemple. En tout cas, je peux m'éparpiller peut-être, mon point, c'est que je trouve difficile, quand on veut établir des protocoles de recherche pour une maladie rare, d'aller, par exemple, le Canada, c'est grand, d'aller chercher, d'aller répertorier tous les Canadiens avec une maladie qui est, par exemple, 1 sur 1 million, d'aller tout chercher les gens quand ils sont éparpillés dans plein d'hôpitaux, puis il n'y a aucun moyen d'aller les chercher à moins de d'écrire des lettres à tous les neurologues ou peu importe, puis qu'encore là, les médecins
je répondrai peut-être sur deux points quand même, parce que pour remonter le moral de Gail aussi, les premières maladies pour lesquelles le soin se sont structurés en réseau en France de manière très organisée, c'est deux maladies rares qui ne sont pas exceptionnelles mais qui sont quand même rares, qui sont la fibrose kystique et la sclérose latérale amyotrophique. Ça a été les premières maladies pour lesquelles il y a eu des centres de compétences. Ça, pour la mucoviscidose, ça s'appelle les CRCM, et la sclérose latérale amyotrophique, je crois qu'ils n'ont pas de nom spécial, mais c'est les centres de référence, et ça, c'était en 2003. Et en fait, tout le plan maladie rare après, ça ne s'est pas vraiment calqué dessus, mais cette première expérience qui a commencé avec la mucoviscidose et la sclérose latérale amyotrophique a été reprise pour les autres maladies. Mais l'idée des Français qui s'occupaient de mucoviscidose, c'est que un certain nombre d'entre eux étaient venus au Québec et avaient vu que pour la mucoviscidose, qui est assez fréquente, enfin, qui est rare au total, mais il y a une prévalence plus élevée au Québec qu'en France, les médecins québécois avaient structuré les soins dans peu de centres et que ça permettait une meilleure prise en charge des malades. Et quand ils ont vu ça, ça a aidé dans la réflexion en France pour organiser les soins pour la muco. Donc, vous voyez, ça va dans les deux sens.
On devrait retourner chez vous pour prendre votre exemple maintenant.
Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que pendant le premier plan maladie rare, effectivement, il y a eu pas mal de moyens qui ont été donnés aux hôpitaux. Et les médecins, au début, ont demandé des postes de médecins supplémentaires, des postes d'infirmières, des postes secrétaires. C'était très important pour s'occuper des malades. Mais ils n'ont pas toujours bien compris dès le début qu'il fallait aussi faire de l'épidémiologie. Ils ne se sont pas forcément donné des moyens. Ils ont colligé leur propre cas. Ils savaient très bien qui soignait. Mais faire des bases de données qu'on puisse utiliser, au début, ce n'était pas tellement leur truc. Donc, il y a une grande base qui s'est montée à Paris qui s'appelle SEMARA, qui recueille des données sur à peu près 50 ou 80 000 malades maintenant, mais ce n'est pas tant que ça, puisqu'en France, on pense qu'il y a 2 ou 3 millions de patients avec des maladies rares. Et c'est un des objectifs du deuxième plan, de faire qu'on puisse colliger vraiment l'information au plus près des malades dans les centres de référence, essayer d'avoir une base de données nationale pour savoir où sont les malades quand on veut faire des projets de recherche. D'abord, pour avoir l'information sur l'évolution de la maladie, sur le coût des traitements, sur l'organisation des soins, mais aussi pour pouvoir trouver les malades pour la recherche. Et c'est un des objectifs du deuxième plan, de faire une banque nationale des maladies rares qui collige toutes les informations qui existent déjà et qui en recueille encore d'autres.
Ça, c'est fait présentement ou c'est
fait en cours, là.
OK, parfait.
Parce qu'il y a un grand problème, c'est de ce qu'ils appellent la définition du minimum dataset. Savoir qu'est-ce qu'on met comme information dedans. Mm-hmm. Parce que ou bien on met que le nom du malade et son adresse, et à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il a comme maladie, on n'a pas tous les détails, ou bien on détaille toute la maladie, et à ce moment-là, ça prend des pages, et les médecins disent, ou les chercheurs associés, mais on n'a pas le temps de remplir la base de données. Mm-hmm. Donc, il y a une compromission qu'il faut trouver, et c'est encore en gros de définition.
Et puis après, il faut que les différentes bases de données qui existent déjà se parlent, parce que les gens ont déjà tous recueilli quelquefois des données dans leur coin, mais si on fait un nouveau système, il faut que le nouveau système parle aux anciens systèmes, et ça, c'est pas simple.
Poser une question. Alors, est-ce que vous avez des solutions? Parce que le problème avec ces bases de données-là, c'est très précieux. Puis, il y a aussi le concept de clinique spécialisée, de regrouper les expertises. Je pense que vous avez raison, c'est un truc qu'on a besoin pour
l'expertise
plein.
L'expertise aussi, non, c'est qui ça. Est très disparate.
Absolument.
Le Canada, c'est grand aussi.
Non, c'est une autre question, mais qui est importante aussi. Mais une des difficultés pour maintenir des registres de patients qui pourraient bénéficier de projets de recherche, de traitement, c'est le coût. En temps et en moyen pour maintenir ça. Les médecins n'ont jamais le temps de rien faire, ils s'occupent de leurs patients, mais à la fin de la journée, ils n'ont pas le temps de rentrer les bases de données, ça ne marche pas. Ils ont même peu de temps pour recruter les patients, les diriger vers des projets de recherche. Mm-hmm. C'est très frustrant pour un chercheur parce que ça nous paraît évident, même les cliniciens, même s'ils sont pleins de bonne volonté, la plupart ne prennent pas le temps parce qu'ils n'ont pas de référer. Est-ce que vous avez des solutions pour faciliter, bon, évidemment, ça passe par prendre dans l'engagement de chargés de projet, d'infirmières, de recherche, etc., mais avez-vous des solutions qui ont fait leur preuve pour faciliter le développement de ces registres?
Alors, il y a des registres qui se sont développés avec des financements spécifiques. Par exemple, il y a un registre de l'atrésie de l'œsophage, il y a un registre de la maladie de Pompe qui ont eu des financements spécifiques de l'Institut de veille sanitaire et de l'Institut national de recherche médicale, l'INSERM. Mais il y a aussi beaucoup de bases de données. Pour la mucoviscidose, il y a plusieurs registres. Il y a un registre national de la mucoviscidose qui est porté par vaincre la mucoviscidose, c'est dans l'autre sens, et qui c'est elle qui tient le registre et avec des publications régulières des données, et tous les médecins qui s'occupent de mucoviscidose participent à l'implantation de cette base de données. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a cette volonté de faire une banque nationale où l'entrée des données ne soit pas trop compliquée, pour que quand même, de manière courante, les médecins ou les gens qui les aident en consultation, les secrétaires, puissent rentrer des données au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de détails dans cette base de données, ce qui n'empêche pas après, sur quelque chose de plus spécifique, d'avoir un recueil plus important. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas facile, et ça n'a pas marché dans le premier plan, et là c'est vraiment un des challenges du deuxième plan. Alors, on voudrait aussi... Après, il y a un problème de codification, parce que dans le système hospitalier français, les malades qui sont hospitalisés, il y a tout un recueil de données, mais qui est fait à partir de la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans cette classification, les maladies rares, il n'y a que 300 ou 400 maladies rares qui ont un code spécifique et encore à peine. Et donc, on ne peut pas se servir de cette classification. Alors, on a développé avec Orphanet un codage spécifique et OrphaCode, où toutes les maladies qu'il y a dans notre base ont un numéro spécifique. Et on est en train d'obtenir en France que tout le codage hospitalier utilise maintenant, à côté du codage de l'OMS, le codage Orphanet. Ça va se faire là, ça va pas se faire en 15 jours, mais c'est dans les tuyaux, les gens sont d'accord, ça va se mettre en place. Et le gouvernement allemand vient de faire la même chose aussi. Ça va se mettre aussi en place dans le cadre de la mise en place des centres d'experts en Allemagne. Ils vont utiliser là aussi la même nomenclature. C'est un moyen de retrouver les malades si tout le monde utilise le même codage. Après, on peut avoir des informations plus ou moins détaillées, mais au moins dans toutes les bases, on retrouve les malades. C'est ça l'idée de ce code unique qu'on voudrait implanter un peu partout.
Juste avant de passer la parole à Gail, en pratique, après avoir passé une journée l'année dernière à discuter des bases de données sur les patients, on est arrivé à la conclusion qu'on avait besoin de deux informations. Le diagnostic et où contacter le malade. Une fois qu'on a ça en main, on peut obtenir toutes les autres informations. C'est déjà le strict minimum. Et dans beaucoup de cas, on n'a même pas ça.
J'imagine soit avec la date de naissance ou avec la carte d'hôpital, il peut avoir au moins un peu d'informations qui peut être obtenue avec ça.
Oui, je vais répondre à ça, mais avant, je veux répondre à Adil pour dire que je ne suis pas si négative que ça. Puis, c'est quelque chose que je disais beaucoup au début de la création du RQMO. C'est pas comme s'il n'existait rien là, au Québec dans notre système de santé. Alors, c'est depuis longtemps, on a des cliniques de la fibrose kystique, les maladies neuromusculaires, les maladies métaboliques. C'est les trois, je dirais que c'est les trois catégories de maladies, où il y a des cliniques à travers le Canada, dans toutes les provinces, très bien depuis longtemps. pourquoi il y a des raisons historiques, fibrose kystique et les maladies neuromusculaires, en tout cas certaines, c'est celles où on a trouvé, identifié les gènes, les premiers gènes, et que les associations de patients se sont organisées d'ailleurs et ont contribué à la découverte de ces gènes-là, et il y a eu une mobilisation pour la prise en charge. Les maladies métaboliques, beaucoup parce que il y avait des traitements simples. On cherchait, c'était pas des choses compliquées, une diète, un médicament, et on faisait le dépistage. Donc, ça, c'est historiquement pourquoi il y a ces. Mais, il y en a 7000 maladies rares. Madame, la maladie dont elle parle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de l'hémiplégie alternante ici? À part les médecins. Il y a 7000 maladies rares comme ça, où et peut-être Madame Dandurand, plutôt, vous voulez dire, les ressources, c'est la prise en charge. Là. Il y en a de quelques cliniques spécialisées. À Sainte-Justine, il y a une clinique spécialisée sur l'épidermolyse bulleuse, sur la sclérose tubureuse. Il y en a dans différents endroits. C'est ce qu'on est en train de répertorier pour Orphanette. Mais ça manque. Puis avec la population qu'on a, si on parle juste du système de santé au Québec, mais si on était au Canada, on n'aura pas des centres spécialisés sur toutes les maladies. On pourrait avoir des catégories de maladies ou au moins un expert. Hein? Mais je vais juste pour répondre après à la deuxième portion de votre question. C'est une des demandes les plus fréquentes qu'on a au RQMO, je cherche quelqu'un avec ma maladie. Et on réussit des fois à mettre des familles puis en contact, puis des fois ça a été des choses absolument incroyables, des hasards incroyables, de maladies là, de 1 sur 1 million, hein, puis on a réussi. J'ai pas le temps de raconter ces belles histoires, mais beaucoup aussi demandent, est-ce que vous êtes capable de me dire combien on est au Québec? J'en ai encore eu une demande la semaine passée, puis malheureusement non. Fait que là, après beaucoup de ces demandes-là, après plusieurs années de l'existence du portail, là, on va regarder des façons, peut-être via la RAMQ, au moins d'avoir le nombre. Comme vous savez, je pense que vous le savez, pour des raisons éthiques, on ne peut pas obtenir des noms de patients, de médecins. Même nous, on ne fait pas ça, donner des noms de personnes. Hein, on demande l'autorisation des personnes. Et puis, donc, ça, c'est pas possible. Et, ben, en fait, puis la troisième chose que je veux dire, c'est que les malades eux-mêmes peuvent faire des choses. Puis ça s'est fait, puis c'est beaucoup développé aux États-Unis. Là. Les associations, ils font ça eux-mêmes. Ils n'attendent plus après les chercheurs puis les médecins. Puis j'en connais un ici, un directeur, un président d'une association, qui va faire son propre registre. Puis ils peuvent le faire eux-mêmes, puis après ça, ils peuvent contacter des médecins, des chercheurs pour demander, mais je pense que c'est une solution. Puis, qui a stimulé le plan national maladies rares en France et les associations de patients? Qui a stimulé beaucoup d'avancées? Alors, moi, c'est quelque chose qu'on prône aussi, c'est qu'on aimerait bien aider, mais on est à nos débuts, puis on ne peut pas tout faire, mais on peut conseiller, puis on peut vous donner de l'expérience d'autres associations, mais c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Puis, Dr. Mandel, hier, qui parlait, c'est le Dr. Mandel de One... Family, Patients Like Me, c'est un site internet qui est basé aux États-Unis, un groupe, et puis ils se sont organisés sur internet, ils se retrouvent, ils ont même publié un article à partir de leurs données, puis pour les maladies rares, là, je pense qu'il faut quelqu'un qui a l'hypertension, le diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, ils ont leur propre, peut-être, récrimination sur le système de santé, mais on s'en occupe, on fait leur chose, il y a de la recherche, ça se fait, on donne la Société du cancer. C'est pas la même chose pour les maladies rares. Malheureusement, vous êtes le parent d'un enfant malade, vous êtes obligé aussi de vous organiser vous-même, mais je dis toujours, associez-vous à des gens qui ne sont pas malades, qui ont de l'énergie, qui vous aident, mais on peut faire des choses.
C'est juste qu'on est là pour aider. C'est pas tous les parents qui sont proactifs, c'est pas tous les parents qui ont accès, qui ont le temps, qui ont l'énergie,
non,
qui ont la
c'est
capacité.
Ça, puis
il y a beaucoup de gens qui sont isolés, soit avec la langue, soit avec...
Nous, on aide à monter plusieurs associations, puis on donne des conseils, puis ça, c'est le premier conseil que je donne, c'est un conseil d'administration. frustration avec des parents qui ont un enfant handicapé ou deux enfants handicapés ou des gens qui ont des maladies handicapantes, bien, associez-vous à des gens qui sont capables de vous aider. Puis, fait que c'est, mais votre problématique est la même pour beaucoup, puis on peut essayer de voir des solutions, mais une des solutions, c'est, parce qu'il a raison, Jacques, là, faire des registres, ça demande du temps. Il faudrait quasiment dans chaque groupe de recherche une personne à temps plein juste pour faire ça. Ou,
non, mais c'est une bonne idée, la RAMQ. Je ne sais pas s'il y a une banque ou un, je sais pas, quelque chose, ou est-ce qu'à chaque fois que, je ne sais pas, c'est idéologique peut-être, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau diagnostic qui est fait, quelqu'un puisse, je ne sais pas moi, une assistante, quelqu'un peut juste rentrer à diagnostic, comme quoi qu'à l'hôpital X, il y a, je ne sais pas moi, un cas de... ex-fragile et un clic. Puis il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien. C'est juste pour identifier qu'il y a eu un diagnostic supplémentaire là. Fait qu'on, advenant qu'il y a eu je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être fait ou quoi que ce soit. Ou c'est comme ça, dans la RAMQ, c'est qu'il y a un nouveau diagnostic qui a été fait avec de l'ex-fragile, mais advenant que c'est un cas extraordinaire, là, un cas très rare, mais au moins, le regroupement peut-être envoyer de l'information à cet hôpital-là avec un pamphlet, puis dire voici, puis le docteur peut le donner au patient, puis le patient peut dire, ah, il y a une association qui existe. Je ne sais pas, moi, ça peut aller jusque-là, je ne sais pas. Puis le patient peut après ça choisir. Mais en tout cas, moi, il y avait plusieurs points que je voulais apporter. Il y avait un, le point que ça serait important que certains médecins puissent au lieu qu'il y ait des patients qui sont un peu partout séparés, puis qu'il y ait un patient avec un médecin un peu partout, que les médecins puissent peut-être se spécialiser, comme c'est le cas, en tout cas, à McGill, définitivement sur certaines maladies. Se spécialiser puis devenir des experts dans certaines maladies qui sont très, très rares, au lieu qu'ils soient éparpillés un peu partout. Autre chose, c'est ça, être capable de répertorier des cas rares pour être capable de faire de la recherche. Quand tu es 5 au Canada, c'est dur de faire de la recherche. Là,
Mais je pense que vous soulevez des points cruciaux. Puis je pense qu'il y a un effort. On tend vers ça. Tout le monde voit l'intérêt de faire ça. Puis on va y arriver de différentes façons. Je pense qu'il n'y aura pas une solution across the board, là, mais... les cliniciens réalisent de plus en plus l'importance de concentrer l'expertise dans des cliniques. C'est plus intéressant, c'est plus efficace. Tout le monde s'y retrouve là-dedans, tout le monde en bénéficie. Puis le besoin de l'informatique, tout le monde sent le besoin d'avoir des bases de données intégratives. Tout ça. Puis je pense qu'on va y arriver. Il y a toutes sortes d'initiatives, là, mais votre intervention est importante parce que ça met de l'emphase là-dessus. Je voulais juste faire un commentaire. Parce qu'en fait, c'est plus facile. Enfin, c'est déjà difficile quand on a un diagnostic de maladie rare, mais il faut réaliser qu'il y a plein de, au moins d'enfants, parce que c'est ceux que je vois, qui ont même des adultes qui ont des diagnostics, qui n'ont pas de diagnostic. C'est-à-dire qu'ils ont des conditions. Puis ça, Dr. Melançon, Gail peut témoigner. Dr. Crème aussi, on n'a pas tout décrit, là. Puis il y a encore des milliers, à mon avis, de conditions qui se présentent de façon plus spécifique ou moins spécifique, mais qui n'ont pas été encore décrites. Et ça pose un problème assez important. Oui, devant une famille où on ne sait pas ce qu'ils ont, puis c'est pas connu, c'est pas décrit, c'est une autre problématique.
Oui, en passant, j'ai donné le microphone à M. Phoenix, mais ici, malheureusement, pas de diagnostic, pas de service. Il faut donc avoir un diagnostic.
Nous, on fait face souvent à ça, l'errance diagnostique. On a des gens qui ont eu un diagnostic d'ataxie de Friedreich après 20 ans d'un diagnostic de sclérose en plaques. Quelqu'un très près de moi qui a passé pendant 6 ans d'un diagnostic d'ataxie de Charlevoix-Saguenay, polyneuropathie sensitive, je ne sais pas, jusqu'à temps qu'un neurologue le voit puis il dit t'as pas polyneuropathie, t'as pas l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, t'as une ataxie haute. Puis après un test diagnostique très simple, on lui a diagnostiqué qu'il y avait l'ataxie de Friedreich. Pourtant, c'est une ataxie qui est très commune puis qui est très présente au Québec. Moi, je me suis plaint souvent dans des colloques du RQMO que les neurogénéticiens ne pensaient pas à avoir recours à la génétique moderne. Il existe une compagnie, probablement au Québec, on sait qu'elle est présente, Centogène, je pense qu'il fait un test de multiples formes d'ataxie qui se fait d'un seul un seul test. Mais la preuve, c'est que ça a évolué, c'est que on se plaint depuis longtemps, nous autres, que les jeunes traînent des diagnostics imprécis. On a produit un calendrier que je vais en faire la promotion. On fait un financement de notre association avec ça. Puis la majorité des cas, ce sont des jeunes enfants, 4 ans, 5 ans, qui ont un diagnostic maintenant d'ataxie de Fallot-Rice-Sheppard. Il aurait probablement entendu à l'adolescence qu'il passe un test, mais pour ça, nous autres, on a un médicament qui a un effet sur l'évolution de la maladie. C'est pas efficace chez chacun, mais c'est un médicament qui est produit par la compagnie Santhera, qui a un effet de réduire la progression de la maladie, qui a un effet au niveau de l'hypertrophie cardiaque. Puis nous autres, on trouve ça extrêmement important que les gens soient diagnostiqués le plus tôt possible pour qu'on puisse traiter les symptômes puis réduire la progression de la maladie. Merci beaucoup.
Une autre question de la salle.
Vous êtes assez patient pour m'avoir deux fois. Sur la question des registres et pour faire suite, on parle beaucoup évidemment de l'errance diagnostique. Je pense que de notre côté, en finesse et tonurie, on ne peut pas parler, c'est vraiment pas le problème. Il y a dépistage néonatal. On vit une situation qui est peut-être un peu paradoxale par rapport à ça. C'est-à-dire que l'errance diagnostique, des fois, elle arrive plus tard dans la vie des gens. C'est qu'ils sont très bien traités, très bien suivis, diagnostiqués dans l'enfance. Et parce qu'on sait qu'il y a un passage de la pédiatrie au traitement adulte qui est difficile, qui est pas encore très, très bien harmonisé, les gens échappent à un moment donné au système. C'est encore plus vrai des gens qui ont été diagnostiqués il y a peut-être 30 ans ou 25 ans. Et ils se retrouvent étrangement, après tout l'effort qui a été fait à leur naissance et dans leur enfance, ils se retrouvent à l'âge adulte dans une situation d'errance parfois diagnostique où ils ont certains symptômes. Et le fait d'avoir un registre, je reviens au principe du registre de patient, et à mon sens, ça recoupe un peu toute la discussion qu'on entend parfois dans les médias sur le dossier électronique des patients. On sait tout le débat que ça soulève. Ça m'amène aussi à la question, quel est le rapport entre ça et la protection des renseignements personnels, qui est peut-être un obstacle ou une difficulté à surmonter pour établir des registres de patients, je ne sais pas, au niveau professionnel. Mais c'est évident que le dossier ne suit pas les gens. Et c'est vrai au départ, quand on cherche à diagnostiquer, mais c'est vrai pour l'ensemble du niveau. On parle toujours de maladies chroniques, qu'elle soit génétique, qu'elle soit pas. Est-ce qu'il y a moi, j'ai l'impression que tout l'enjeu du dossier, est-ce que l'enjeu du dossier électronique peut jouer? Est-ce que c'est un aspect? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut favoriser? Est-ce que c'est quelque chose envers lequel on peut se mobiliser? Ou si on fait fausse voix à ce moment-là?
Depuis 2 ans, on a un sondage en ligne pour comprendre le vécu des personnes avec des maladies rares au Québec, les parents d'enfants atteints, puis des proches aidants de personnes atteintes. Et puis, presque 300 personnes ont répondu jusqu'à maintenant. Et puis, on entend beaucoup de choses à propos du dossier électronique, des questions d'éthique, des questions... Je pense que le blocage, là, c'est plus informatique et je pense que c'est les informaticiens là, qui demandent trop d'argent pour faire ça, mais il y a beaucoup de questions d'éthique. Mais pour les patients avec des maladies rares, là, pour eux, c'est il n'y a aucune question d'éthique. Là. Beaucoup ont proposé ça comme solution parce que la plupart ne sont pas dans des cliniques spécialisées multidisciplinaires où il y a une infirmière pivot, une coordonnatrice puis des médecins qui se parlent. Donc, et puis ils voient bien que quand ils vont voir un des spécialistes, le spécialiste ne regarde pas nécessairement tous les rapports de consultation dans le dossier. Ils disent tout, c'est en silo, tout est séparé. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc, pour eux, le dossier électronique où tout serait là, c'est une solution pour eux qu'ils attendent, en fait.
Alors, c'est quelque chose qui commence en France, qui s'appelle le dossier médical personnalisé.
C'est un système extrêmement sécurisé, c'est une agence gouvernementale, ils s'en occupent, où les malades peuvent demander à leur médecin traitant de créer un dossier en ligne. Alors il y a tout un système pour la sécurité avec différents niveaux de ces... bien plus encore sécurisé qu'une carte bancaire, parce que justement il y a tous les aspects de confidentialité et de secret médical. Et donc les malades eux-mêmes peuvent mettre des informations dans leur dossier, ils donnent accès à leur dossier médical au médecin qu'ils choisissent, et le médecin peut rajouter dans le dossier donc les comptes rendus, les examens de laboratoire qui sont rangés de manière très très standardisée sur les normes internationales, les comptes rendus de radiologie. Mais effectivement, c'est complexe sur le plan informatique parce que en France, dans le système hospitalier, il y a déjà, je crois que dans les grands CHU français, il y a déjà 40 logiciels différents et que les médecins de famille, ils ont 250 ou 300 logiciels différents pour la tenue de leur cabinet. Donc il y a une tentative, enfin, il y a des appels d'offres pour que les informaticiens, les boîtes d'informatique rentrent dans ce système de dossier médical personnalisé. Moi, je pense que ça va monter en charge. Ça a été très compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de l'éthique. Les gens qui coordonnaient ça au niveau national ont changé plusieurs fois. Je pense que ça va revenir. Et il y a 15 jours ou 3 semaines, on avait une réunion avec les associations de malades en France, dans une cadre d'un colloque annuel avec la fondation Groupama. Et on a une présentation des gens de l'agence qui s'occupe de ça. Et tous les malades qui étaient là, ou toutes les familles, étaient prêts le lendemain à aller ouvrir leur dossier médical personnel si on leur disait comment faire. Et d'ailleurs, l'agence en question, en principe, la porte d'entrée actuellement dans les expériences qui ont commencé, il y a maintenant, je crois, 200 ou 300 000 dossiers ouverts, c'est à l'hôpital, au moment des admissions. Mais comme certains hôpitaux ne sont pas encore totalement équipés, que les associations de malades sont très demandeuses, l'agence qui s'appelle la ZIP, l'agence des systèmes d'information partagée, développe des coopérations spécifiques avec les associations de malades, avec un protocole d'accord entre l'agence et l'association pour que l'association elle-même puisse ouvrir les dossiers pour ces malades. C'est en train de monter en charge, je crois que c'est très intéressant. Et parce qu'après, quand on aura le dossier comme ça, on pourra aussi mettre dedans les recommandations pour la pratique, pour quand le malade ira... Un malade de Marseille, il sera hospitalisé en urgence à Lille, il dira, mais si, j'ai mon dossier médical personnel, c'est tel numéro, et vous trouverez toutes les informations, et je vous donne le numéro. Mais ça va venir, je pense.
Je peux poser une question. Orphanet est subventionné par le gouvernement français. Oui. Quel est le budget d'Orphanet?
Alors, le budget d'Orphanet est entre 2 et 3 millions d'euros, mais on a une subvention du gouvernement français. Alors, on a d'abord une subvention de l'INSERM, puisqu'on est une unité de l'Institut national de la recherche médicale, qui finance 7 ou 8 des postes permanents. Et tous les autres postes de l'Orphanet sont des postes non permanents. On a un financement de 300 000 euros de la ministère de la Santé, et puis on a des financements de la Commission européenne à différents niveaux, de la direction de la recherche aussi, pour différents projets de recherche. Et puis, on a quelques partenaires, l'Association française des myopathies, la fondation Groupama, je crois que j'en oublie un ou deux, mais en gros, on a une grande partie c'est du budget public, soit du gouvernement français par une voie ou par une autre, et de la Commission européenne.
Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Sinon, je vais demander à chacun de dire au revoir.
Au revoir à tous. Je vous invite, en concluant, de visiter notre site web qui est au www.lacaf.org, un site qui est très bien monté, je pense, puis vous allez être à même d'entrer en contact par courriel avec des gens de la direction de notre association, puis d'autres aussi intervenants du domaine des ataxies. Merci beaucoup.
Si vous avez besoin individuellement d'informations sur une maladie rare, vous pouvez nous contacter au site du Regroupement québécois des maladies orphelines, mais je vais vous laisser un message que je pense que, oui, on est en retard, beaucoup, le Canada puis le Québec sur l'ensemble des pays industrialisés. Là, et s'il y a une trentaine de pays qui, en 2013, à la fin de 2013, ont un plan national maladie rare, on va être encore plus jaloux et envieux. Mais je pense que il y a des pas qui se font, comme j'ai dit, là, dans les dernières années. Puis c'est... nous, on est là comme facilitateurs pour les groupes de patients et les patients isolés pour qu'on puisse faire pression pour que ça aille plus vite.
Je voulais juste féliciter tous les gens qui travaillent, enfin tous les gens qui ont travaillé autour de ce colloque, puis aussi le regroupement que Gaëlle, dont Gaëlle s'occupe, parce qu'en fait, on voit un changement majeur depuis les quelques dernières années. Là. Je pense qu'il y a 2 ans, on parlait très peu des maladies rares, puis maintenant, le gouvernement, en fait, tout le monde réalise que c'est un problème de santé publique important. Et donc, les 2 dernières journées ont été assez éloquentes en ce qui a trait au chemin qui a été parcouru. On avait encore beaucoup de travail à faire, mais félicitations à Orphanet, félicitations aussi à Gaëlle, puis à tous les gens qui ont organisé le colloque.
Moi, je voulais dire au terme de ces 2 jours que j'étais très contente d'être venue à Montréal, où j'étais déjà venue très souvent, enfin, un certain nombre de fois, et que j'aime toujours bien venir à Montréal. Et dans ce cadre pour les maladies rares, le développement, le lancement d'Orphanet Canada et d'Orphanet Québec me paraissent des étapes très importantes pour mettre à disposition l'information sur les ressources, non seulement sur les maladies, sur la génétique, mais aussi sur les médicaments, mais aussi sur les ressources. Et je pense que le recueil de données va monter en charge. Il y a déjà eu beaucoup de choses de fait depuis que ce portail à 2 pages a été lancé au début de l'année. Et je pense que ça va continuer. Moi, je tiens à remercier beaucoup les équipes de M. Mélenchon et aussi à McGill avec M. Lascaux et Ken Richet que je vois dans le fond. Et Maïs et Nancy, j'ai retiré mes lunettes, donc je ne les vois plus. Mais et puis Kay, bien sûr, parce que je pense qu'on va pouvoir bien travailler ensemble et que c'est extrêmement important pour les malades et pour les médecins.
Voilà, alors le mot de la fin. Merci aux panélistes, vous avez fait ça très bien. Merci aussi à l'auditoire, vous avez collaboré dans la mesure du possible. Oui, vous avez bien fait ça. Et j'allais dire un gros merci aux organisateurs, Étienne, Naïs et Nancy, c'est déjà fait. Et merci à nos amis, nos cousins français, Jean-Loup, Odile, et vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous revenir quand vous voudrez, pour des choses sérieuses comme ces 2 derniers jours ou pour des frivolités. C'est bon.